Au début de la seconde lecture des Éphésiens, il nous était dit que chacun de nous reçoit le don de la grâce comme le Christ nous l'a partagé. Le don de la grâce, c'est cela, la vie chrétienne. Être des chrétiens, c'est d'abord être des gens qui sont animés par la vie de l'Esprit-Saint, par la vie de Dieu. Et cette grâce, plus on avance, je crois, et puis en voyant les uns les autres, on se rend compte que cette grâce, elle est vraiment très personnelle, parce que notre Dieu aime chacun que nous sommes, crée chacun que nous sommes, non pas l'a créé il y a quelques années, mais est en train de le créer maintenant. Et voilà, chacun de nous reçoit le don de la grâce, comme le Christ l'a partagé. Le don de la grâce, c'est donc la vie divine infusée par l'Esprit-Saint dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos êtres. Le don de la grâce, c'est le supplément d'âme qui fait que notre vie est vraiment humaine, car c'est Dieu qui peut nous rendre humains. Et je me dis souvent ça quand je regarde le monde dans lequel nous sommes, qui a des grandes richesses, mais qui patine quand même pas mal. C'est un monde où on a mis Dieu dehors. Et finalement, l'homme a bien du mal à rester ou à devenir humain. Je lisais cette semaine dans un livre, quelqu'un qui disait que finalement, Dieu seul est humain. Nous sommes faits à son image pour devenir à sa ressemblance, et voilà. Dieu seul est vraiment ce que nous devons être, Dieu seul est humain. Et le don de la grâce, Paul nous dit aussi, si c'est quelque chose de très intime et personnel, c'est aussi un don qui fait et qui permet à chacun de trouver sa place dans le corps du Christ, dans l'Église, sa vocation ecclésiale. Plus j'ai entendu parler de saint Antoine, par les frères encore récemment, plus j'ai conscience qu'il avait une personnalité extraordinaire. Il est devenu un saint extraordinaire, mais parce que, quelque part, cette sainteté s'est articulée sur une humanité probablement exceptionnelle. Il était, dans son époque, parmi les personnes les plus brillantes intellectuellement, les plus instruites, les plus cultivées. Mais ça ne suffit pas pour être un saint. Il avait certainement une forte personnalité. Lui qui a assumé des responsabilités de formation, de gouvernement dans l'ordre, il a été custode du Limousin, puis on voit que partout il passait, il créait des communautés, il ouvrait des universités. Mais je me disais surtout une personnalité du fait où il a été très souvent capable d'interpeller les riches, les puissants de son époque, et principalement à propos des pauvres et de l'injustice. Il n'hésitait pas, il était capable d'affronter. Et en même temps, cette force qui était la sienne, il ne semble jamais l'avoir utilisée comme une puissance sur les autres. Au contraire, c'est la douceur qui nous est restée. Nous savons qu'avoir ainsi beaucoup de richesses peut conduire à l'orgueil, à la tentation de domination, au mépris des autres. Chez Antoine, on ne voit pas tout ça. Un plan de carrière centré sur ses propres intérêts. Ce sera peut-être, ou ça a peut-être été pour lui, le lieu de sa tentation. Quand on a autant de richesses, on peut être tenté de s'en servir pour soi. Et le Christ l'a vécu le premier. C'est peut-être d'ailleurs de ce genre de tentation que la Vierge de Bon Secours a délivré Antoine, ici, à Brive-la-Gaillarde, dans les grottes où il venait prier. Car Antoine était aussi l'homme d'un immense désir. Il était habité par un puissant désir. Mais toutes ces grâces qui étaient les siennes, et c'est un peu l'image d'Ulysse qui accompagne aussi sa fête et qui accompagne aussi souvent, il est dans les statues que nous voyons, Antoine avec un lys, il me semble que le lys symbolise bien cette pureté qui lui a été donnée depuis son enfance. Cette grâce de pureté qui fait que, comme saint François, il savait rapporter à Dieu tous les biens qui lui étaient donnés, tous les biens qui étaient siens, les rendre à Dieu qui en est la source, comme une eau qui coule de source mais qui sait qu'elle n'est pas la source. C'est sans doute cette humilité qui équilibrait son tempérament, un tempérament aussi riche, et qui faisait une harpe à l'Esprit-Saint, et qui faisait en lui une harpe de l'Esprit-Saint, où Dieu pouvait jouer à la fois un chant joyeux et proclamer les grandeurs du royaume. Les lectures de ce jour et les oraisons que nous avons entendues soulignent quelle fut peut-être la grâce d'Antoine au cœur de l'Église. Dans l'oraison d'ouverture, il nous était dit qu'il était un grand prédicateur de l'Évangile. Dans la lettre aux Éphésiens, on l'identifie aux missionnaires de l'Évangile, à ceux qui enseignent. Et l'Évangile nous rappelle qu'il était, comme les premiers frères franciscains, un prédicateur itinérant qui a usé ses forces sur les routes de France, d'Italie, d'Espagne et surtout de nos régions. Un prédicateur itinérant qui proclama la bonne nouvelle de l'Évangile à temps et à contre-temps pour prémunir ses contemporains des dérives des courants d'idées de son époque. Il était là pour donner et redonner inlassablement le goût de l'Évangile. Comme les apôtres envoyés par Jésus. Un prédicateur qui savait toucher le cœur de tous et dont, nous dit l'Évangile, et on le sait pour Antoine, la parole était confirmée par les signes qui l'accompagnaient. Tant de gens couraient vers lui en espérant des miracles comme encore aujourd'hui. Comme pour Jésus, beaucoup venaient à lui pour ces signes qui l'accompagnaient. Mais comme Jésus, Antoine affirmait et savait que l'essentiel n'est pas dans le signe ou le miracle, mais qu'il est dans l'Écriture, dans la parole de Dieu qui oriente nos vies, elle qui réforme nos humanités et qui réforme l'homme à l'image de Dieu dans la puissance de l'Esprit-Saint. Beaucoup de remerciements arrivent à saint Antoine, et c'est bien, il répond à notre prière, avec le risque qui pourrait être le nôtre peut-être, de croire qu'il va faire les choses à notre place. Dieu ne fait pas les choses à notre place, mais il nous attire par sa bienveillance, il nous attire par les signes qu'il nous donne. Les signes sont là pour nous tourner vers Jésus. Et quand nous nous tournons avec foi vers Jésus, nous entendons sa parole qui nous dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur ». Saint Antoine nous tourne vers Jésus pour qu'à notre tour, nous laissions la vie divine se répandre à travers nos actes, à travers nos êtres. Car finalement, le premier signe qui accompagnait Antoine, je crois qu'à n'en pas douter, c'était d'abord ce qu'il était, son témoignage, sa douce autorité, la douce autorité qui émanait de lui, car il laissait et il avait d'abord laissé la parole de Dieu le brûler lui-même à l'intérieur, pour qu'elle devienne un feu réchauffant et purifiant ses frères. J'ai insisté pour vous rendre attentif à la première lecture tout à l'heure, et c'est vrai que je la vois tout entière dans la bouche d'Antoine. « J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. » Il a beaucoup prié. Antoine, s'il est venu aux grottes de Saint-Antoine, c'est pour ça, sinon il serait resté en son couvent à la place de la poste actuelle. Il est venu ici pour se retirer, pour prier. « J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. » L'intelligence, ce n'est pas l'intellect. L'intelligence spirituelle, c'est cette connaissance spirituelle du mystère. C'est, comme le dit Paul, c'est l'Esprit-Saint s'unissant à notre esprit qui permet de comprendre, de trouver le sens de nos vies, le sens de la foi, le sens du monde. J'ai supplié, continue la sagesse, continue le livre, j'ai supplié et la sagesse est venue en moi. La sagesse est venue en moi. La sagesse qui est identifiée à Dieu, au Verbe qui se fera chair, au Verbe par qui tout fut créé et tout est créé. La sagesse qui est en même temps dans la Bible l'intelligence pratique, cet art de vivre, cette manière de mettre Dieu au monde quotidiennement dans nos vies, dans nos actes, en lui donnant la première place. Antoine a prié pour l'avoir. Il s'est livré au combat spirituel avec ce désir immense qui l'habitait. La sagesse nous dit qu'il a préféré la sagesse au trône et aux richesses, car elle est comme une épouse incomparable. Il nous dit aussi qu'il l'a aimé plus que la santé et la beauté. La santé, c'est important. Mais des fois, à trop se prémunir, on oublie de se livrer au combat, de se laisser disponible. On devient quelque part douillet et on s'enferme. Il ne s'agit pas de se faire mal. Et voilà, de préférer la sagesse à la santé et la beauté. La beauté qui peut être les apparences, la recherche d'être reconnu, aimé. Voilà. Antoine a pris le risque de tout miser sur la sagesse qu'est le Christ, puisque la sagesse qu'il a épousée, c'est vraiment la sagesse de la croix, celle qui consiste à accueillir la grâce de Dieu au creux de notre fragilité, au cœur de notre misère, et de faire l'expérience, comme dit saint Paul, que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'était plus Antoine qui parlait, c'est l'Esprit qui parlait en lui. Ce n'est plus Antoine qui guérissait, c'est le Sauveur qui posait par lui des actes de guérison et de salut, qui pardonnait. J'ai envie simplement de souligner aussi que cette sainteté d'Antoine ne s'est pas faite du jour au lendemain. Bien sûr, il avait une vie très, très pure, mais son chemin d'évangile a été aussi une itinérance, un chemin progressif. Il a commencé par devenir moine augustin auprès de Lisbonne. Il était heureux dans cette vie de prière et d'études au service de ses frères et de ceux qui se présentaient à la porte du couvent. L'Esprit l'avait conduit là. Puis voilà que l'Esprit va le reprendre et le conduire ailleurs, quand il va voir passer les premiers franciscains qui partaient au Maroc, et surtout quand il va pouvoir voir ceux qui reviennent avec le corps des premiers martyrs franciscains au Maroc. Antoine, qui avait étudié la Bible, il est saisi sans doute par ce désir de radicalité. Est-ce que j'ai vraiment tout donné pour le Christ? Eux l'ont fait. Eh bien, moi aussi, dit Antoine. Je veux partir au Maroc avec les frères pour donner ma vie au Christ. Un pas sur son chemin de conversion, ou un bond dans le don de lui-même au Seigneur. Mais voilà, il ne mourra pas martyr au Maroc, et l'Esprit va l'amener en Italie, où il va entrer à nouveau chez les frères, dans un petit couvent où il va être à nouveau heureux dans la contemplation. Et voilà, c'était pas ça sa vocation. C'était celle d'annoncer la bonne nouvelle. Alors l'Esprit viendra encore le chercher par les événements et le conduire plus loin, sur les routes d'Italie, sur les routes du sud de la France, pour être l'arche de la parole de Dieu. C'est un discernement permanent, un ajustement progressif à ce que le Seigneur attend de lui et façonne en lui. Pour dire que voilà, chacun de nous qui venons fêter saint Antoine aujourd'hui, finalement, nous sommes un peu comme lui, et nous avons à le devenir surtout. Chacun a reçu le don de la grâce tel que le Christ l'a partagé. C'est cela surtout qu'il nous faut demander aujourd'hui. Seigneur, aide-moi, aide-nous à saisir cette grâce particulière qui fait d'abord que je suis qui je suis, que j'ai des richesses et des talents merveilleux. Et vous avez vu, Antoine, le Seigneur n'a pas éteint ses talents, au contraire, il les a développés, décuplés. Et puis que je trouve ma place au cœur de l'Église. Le chemin d'Antoine a été long, le nôtre aussi. À chaque période de notre vie, il nous est demandé, nous sommes invités à continuer de creuser la volonté de Dieu sur nous. Dans la communion de l'Église, pour que se construise le corps du Christ. Donc cherchons donc cette grâce, demandons-la, qui nous est faite à chacun, pour que le corps du Christ soit toujours plus grand, plus beau, et parvienne à son accomplissement.